Alors, la vie intérieure descend dans le cloître de notre cœur, descendre à l'intérieur de nous-mêmes pour accueillir l'amour de Dieu, pour vivre d'un cœur à cœur avec Dieu. On est tellement pris par l'extérieur, je le disais hier, qu'il faut rentrer dans notre cœur. Il y a la grâce. Le deuxième point sur lequel insiste Élisabeth, c'est la grâce. On voit bien que ces saints du Carmel, ces saints que Dieu nous montre aujourd'hui, sont incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. On les voit tellement cassés, tellement brisés, tellement blessés, que rien qu'à les voir, on prend pitié, quoi. On dit c'est pas possible. Un psychiatre dirait on peut plus rien faire, c'est fini. Et voilà que la grâce en fait des saints et des saintes. On voit bien que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. On voit bien que l'amour de Dieu vient rechercher ce qui était brisé, ce qui était cassé, ce qui était blessé. Il vient vraiment rechercher la brebis malade. La grâce. Il faut revenir à l'œuvre de la grâce. Quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui est impossible à nous, bien disons-nous bien qu'il faut capituler et rentrer dans l'œuvre de la grâce. Et puis, troisième point, c'est que Dieu vient en nous comme le maître de l'impossible. Je pense un jour à des amis qui... Maman qui me disait que son fils, Mathieu, qui avait 3 ans et demi, je crois, lui crie « Maman, maman !» Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Maman, il y a un problème !» On dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ?»« Il y a un problème !» Je dis « Mais c'est quoi ton problème ?»« C'est moi !» Son problème, c'était lui. Et souvent, dans notre vie de foi, le problème, c'est pas Dieu, vous comprenez bien. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Le problème, c'est moi. C'est moi le problème. Une fois qu'on a discerné le problème, il faut qu'on l'abandonne. Il faut qu'on l'abandonne entre les mains du Seigneur. Si le problème, c'est moi, il faut que je le jette dans les mains du Seigneur, que je me jette dans les bras du Seigneur, qu'il puisse régler le problème. C'est-à-dire m'ordonner à lui, me simplifier, me purifier, me mettre vraiment dans sa lumière. Et que ce qui fait problème dans le problème que je suis puisse être résolu par sa grâce et par son amour, par sa miséricorde. Et vous, je crois que c'est le grand message pour le temps d'aujourd'hui. Dieu a besoin, je ne sais pas comment le dire, mais j'aimerais vraiment qu'on le comprenne, Dieu a besoin de cloîtres ambulants partout. Des gens qui vivent dans ce grand silence du dedans. Et que dans ce grand silence du dedans, quoi que l'on fasse, quoi que l'on vive, où que l'on soit, où que Dieu nous ait plantés pour fleurir, nous puissions être des rayonnements de son amour. Ce qui importe, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est le poids d'amour que l'on va mettre dans ce que l'on fait. Et ça va être la manière dont je vais vivre ce silence intérieur pour que les petits gestes que je vais poser au quotidien soient vraiment un rayonnement de cet amour de Dieu. Et vous voyez, Mère Teresa nous dit exactement la même chose. Pour vivre cela, il faut le silence du dedans. Élisabeth de la Trinité va découvrir ça de manière bouleversante à travers les épreuves de sa vie, à travers cette vie au Carmel, sa souffrance, sa maladie. Elle le verra dans sa chair, cette exigence de vie intérieure, et elle dira, vous vous souvenez, sa mission au ciel. Il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles-mêmes pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux, et de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles, de les transformer en lui-même. Ce grand silence du dedans où Dieu va se transformer. Alors, comprenons bien, quel est le cœur du message que Dieu veut nous donner à travers Élisabeth de la Trinité? C'est d'abord un message d'un amour trinitaire. Voyez-vous, elle aura cette prière admirable, « Ô Trinité, ô Trinité, ô mon Dieu, Trinité que j'adore !» Ce message d'amour trinitaire. La Trinité, les pères de l'Église disaient, voyez-vous, la Trinité c'est un mystère qui nous dépasse infiniment, mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est que si Dieu est amour, il doit être Trinité. Un Dieu un n'est pas nécessairement amour. Pourquoi faut-il que l'amour soit trinitaire, que le Dieu un soit trinitaire? C'est que pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait don réciproque. Donc il faut au moins deux. Mais deux, ce n'est pas suffisant. Ça peut encore être très égoïste. Deux, on le voit bien dans un couple, ça peut être très égoïste. On voit des couples qui se forment comme ça, dans un amour possessif réciproque, où je crois me donner, et je crois qu'elle se donne ou qu'il se donne, mais en fait, je prends et l'autre prend. Et puis on se prend réciproquement et puis on se casse la figure. Ça fait très mal. Une fois qu'on s'est complètement pompé, ça nous pompe l'air au bout d'un moment, voyez, cette vie à deux, comme ça. Donc, il faut trois qui permettent de sortir, de briser cette relation égoïste qui peut exister, possessive qui peut exister. Trois, c'est assez, et en même temps, c'est nécessaire et c'est suffisant. Voilà. Donc, les pères de l'Église disent, si Dieu est amour, la Trinité est une exigence. C'est une exigence. Et Élisabeth de la Trinité rencontrera justement ce Dieu trinitaire que j'adore. Et alors, qu'est-ce qu'elle va dire tout de suite? Aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Au cœur de sa doctrine, cet amour trinitaire, et elle comprend bien que tant qu'elle pense à elle, ça va être la tragédie. Tant qu'elle se retourne sur elle-même, c'est la tragédie. C'est pas possible, elle pourra pas vivre. Il faut qu'elle se donne. Si Dieu se donne à elle totalement dans son cœur, elle n'y a qu'un mouvement de réponse, c'est de se donner elle-même totalement.